confie à la Vierge Marie notre rencontre ce matin. Elle qui a conçu du Saint-Esprit, qu'elle intercède pour que l'Esprit Saint vienne aussi en nous pour comprendre le mystère de la foi, particulièrement le mystère de la foi mis en œuvre dans le monde, dans la société, à travers la doctrine sociale de l'Église. Notre-Dame de l'Assomption, trône de la sagesse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors d'abord, je vous présente ce petit livre, Compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un bon résumé de ce que l'Église a à dire sur le monde d'aujourd'hui. Voilà, je vais y revenir particulièrement aujourd'hui dans mon entretien, sur la vie du monde, la place de la liberté, la place de la famille, la place de l'homme, ses droits, ses devoirs, et pas simplement les droits, mais aussi tous les devoirs, la mission de l'Église et la doctrine sociale, la personne humaine, le dessein de Dieu, le travail humain, le principe de subsidiarité, le bien commun. Voilà, on va aborder un certain nombre de choses, on ne pourra pas tout aborder, mais on va ensemble essayer d'aller au plus loin possible. Alors la semaine dernière, vous avez dû voir avec le Père Chrysostome, n'hésitez pas à mettre les feuilles qui restent en bout de banc, et voilà. Vous aviez dû voir avec le Père Chrysostome un peu l'histoire et l'historique de la doctrine sociale, qu'est-ce qu'elle est. Alors, elle est apparue petit à petit essentielle à la vie de l'Église, cette doctrine sociale. Pourquoi ? Parce que quand on lit l'Évangile, on ne peut pas réduire la parole de Jésus à une simple vie de foi qui déconnecterait l'intelligence de l'agir. Jésus, dans l'Évangile, parfois avec provocation, parfois avec fermeté, parle des choses très concrètes de notre vie quotidienne et qui, au premier abord, semblent ne pas avoir de lien avec la foi. Par exemple, le mariage, quand il parle de la répudiation, de l'adultère, quand il dit « rendre à César ce qui est à César », on pourrait se dire « ça n'a rien à voir avec la foi », mais si, le Christ en parle. Lorsqu'il dit « quand tu vas au tribunal, réconcilie avec ton frère pour éviter qu'il te jette en prison », le discours sur la montagne, les pauvres de cœur, on peut se dire « à quoi ça a à voir avec croire en la Sainte Trinité ?» Mais la doctrine, notre doctrine n'est pas simplement intellectuelle, elle ne concerne pas simplement la foi, l'intelligence, mais elle a une répercussion dans notre vie chrétienne. Et l'actualité dramatique que nous vivons dans l'Église à travers la révélation d'un certain nombre de scandales le manifeste finalement encore plus. C'est-à-dire qu'on est choqué de voir des personnes qui croient en un Dieu qui ne le mettent pas en œuvre. Et donc je crois que la doctrine sociale de l'Église, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé avec l'équipe sacerdotale de la paroisse et l'équipe pastorale, c'est que justement il y a une très forte connexion entre notre foi et notre manière d'agir. Et que la doctrine sociale de l'Église est une boussole pour nous, pour nous laisser renouveler dans notre foi, pas simplement de parler, mais de faire et d'agir à la manière du Christ. Comment devons-nous agir ? Voilà la question que se pose la doctrine sociale de l'Église. Comment devons-nous agir en fidélité avec l'Évangile, avec le Seigneur Jésus ? Alors, une date importante, c'est 1891. Dans un contexte de développement industriel, il y a eu la nécessité de se poser la question de la dignité de l'être humain. Et donc le pape Léon XIII, le 15 mai 1891, a promulgué la première encyclique qu'on appelle sociale, Rerum Novarum. C'est le premier texte qui est sur vos feuilles. Et la première personne, si elle veut bien le lire, je ne sais pas qui a le micro, qui a cet honneur de commencer. Merci.
Introduction générale. La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse devrait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. En effet, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit.
On est en 1891. Voilà. Toute similitude avec des faits pouvant avoir lieu aujourd'hui serait fortuite. Donc le domaine d'application de la doctrine sociale, eh bien, c'est tout le champ de la vie sociale, la famille, l'entreprise, l'autorité, la hiérarchie, l'exercice des pouvoirs, des libertés, nos droits, nos devoirs. Il n'y a aucun lieu de notre vie, dans notre intelligence, dans notre manière d'agir, qui ne concerne pas le Christ. Voilà ce que nous rappelle la doctrine sociale de l'Église. Tout concerne le Christ, tout l'intéresse, tout nécessite d'être sauvé par lui. Et pas simplement notre âme, mais tout notre corps, notre agir. Et c'est le temps du carême, notamment, qui est là pour... voilà, c'était l'oraison du mercredi des cendres, de rentrer dans cet entraînement spirituel, et pas simplement cet entraînement de connaître par l'intelligence qui est Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre connaître par l'intelligence et agir de cette même manière. Je vous propose de lire un deuxième texte plus récent de Saint Jean-Paul II, en 1993, une encyclique centrale aussi sur la théologie morale, qui est l'encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Ça tombe bien, en ce dimanche, nous entendrons l'évangile de la transfiguration. Le Seigneur qui est la splendeur de la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que lui. Alors, eh bien, mettons-nous à l'enseignement, écoutons l'enseignement de Saint Jean-Paul II. Oui, le texte 2, oui.
Appelé au salut par la foi en Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout homme, les hommes deviennent lumière dans le Seigneur et enfants de la lumière, et ils se sanctifient par l'obéissance à la vérité. Cette obéissance n'est pas toujours facile. À la suite du mystérieux péché originel commis à l'instigation de Satan, menteur et père du mensonge, l'homme est tenté en permanence de détourner son regard du Dieu vivant et vrai pour le porter vers les idoles, échangeant la vérité de Dieu contre le mensonge. Même la capacité de connaître la vérité se trouve alors obscurcie et sa volonté de s'y soumettre affaiblie. Et ainsi, en s'abandonnant au relativisme et au scepticisme, l'homme recherche une liberté illusoire en dehors de la vérité elle-même.
Mais les ténèbres de l'erreur et du péché ne peuvent supprimer totalement en l'homme la lumière du Dieu créateur. De ce fait, la nostalgie de la vérité absolue et la soif de parvenir à la plénitude de sa connaissance demeurent toujours au fond de son cœur. L'inépuisable recherche humaine dans tous les domaines et dans tous les secteurs en est la preuve éloquente. Sa recherche du sens de la vie le montre encore davantage. Le développement de la science et de la technique, magnifique témoignage des capacités de l'intelligence et de la ténacité des hommes, ne dispense pas l'humanité de se poser les questions religieuses essentielles. Il la pousse plutôt à affronter les combats les plus douloureux et les plus décisifs, ceux du cœur et de la conscience morale. Encyclique Veritatis Splendor de Saint Jean-Paul II.
Ce que nous enseigne le pape, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Il y a la lumière du Christ qui est en tout homme et il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas. Alors bien sûr, il y a des combats, il y a le péché, comme il le rappelle très clairement, on va y revenir aussi un peu dans la deuxième partie, mais Et oui, et notre capacité de connaître Dieu est obscurcie par un certain nombre de choses qui nous empêchent de mieux connaître le Seigneur. Mais Saint Jean-Paul II nous y invite aussi. Il faut bannir de notre esprit deux choses qui nous éloigneront de la vérité. C'est le relativisme d'un côté, c'est-à-dire de penser que tout est relatif, que finalement, que j'agisse ou que j'agisse bien, ben, ça ne va pas changer grand-chose, que finalement tout se vaut. Ben non, la lumière du Christ ne prévaut à aucune autre lumière, d'aucune autre divinité, car il n'y en a pas d'autre. Et l'autre, c'est le scepticisme, c'est-à-dire de toujours tout mettre en doute, de pas accepter. Nous allons fêter Saint Joseph mardi, de pas accepter de faire comme Saint Joseph qui n'a su que s'abandonner à Dieu, dire oui non pas en démissionnant, en nous faisant démissionner son intelligence, mais un oui généreux, un oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Et voilà ces deux attitudes que Saint Jean-Paul II nous invite à éviter pour rechercher cette lumière du Christ. Alors dans un premier temps, on verra un peu comment s'associe foi et morale, pour pas que nous tombions dans un moralisme, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, qui n'a aucun sens. Mais comment est-ce que notre agir, comme je le disais en introduction, est illuminé par la foi, d'où la nécessité pour nous de connaître l'Évangile d'un premier côté, et dans un deuxième temps, de se mouiller, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce que le Christ nous donne à faire dans l'Évangile. Alors, d'abord la foi et la morale, et encore une fois, cela est accentué par l'actualité tragique et dramatique de l'Église en ces temps-ci, mais on veut limiter la parole de l'Église et sa place au champ de la recherche théologique. Et on dit, ben, vous réfléchissez sur votre Dieu, mais vous venez pas nous embêter dans la vie du monde avec vos préceptes, vos trucs. En plus, regardez votre Église, hein. Vous pouvez donner des leçons, mais voyez bien ce qui se passe. Bon, mais cette dernière argumentation, elle est fondamentalement vraie, comme le dit le théologien carme François-Marie Lettel. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de rechercher la sainteté. Et en ça, le dernier texte du pape François, qu'il a promulgué il y a quasiment juste un an, sur l'appel à la sainteté, est urgent pour chacun d'entre nous. Et donc, s'il existe justement ce compendium de la doctrine sociale de l'Église, s'il existe tant d'associations, tant de chrétiens, de chrétiennes qui se dévouent auprès de leurs frères, auprès des plus pauvres, auprès de la justice sociale, j'y reviendrai dans 15 jours sur ce thème-là, de la justice sociale, c'est parce que oui, le Christ a à dire quelque chose aux hommes de tous les temps, et pas simplement sur le domaine de la foi, de l'intelligence, mais sur notre manière d'agir, sur notre manière de mettre en œuvre son évangile de vérité. Alors je vous ai mis une homélie de Saint José Maria Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei, qui s'il a été canonisé, c'est notamment pour son appel récurrent à la place des laïcs dans l'Église, en les invitant à prendre toute leur place, et comme l'a rappelé le Concile Vatican II, d'abord et en premier lieu dans les actions quotidiennes de la vie ordinaire. Et encore une fois, la doctrine sociale nous rappelle qu'il n'y a pas de lieu où nous ne puissions pas être avec le Seigneur. Vous connaissez peut-être aussi la petite Thérèse qui dit qu'on peut ramasser avec tout son amour une épingle et convertir bien des âmes. Eh bien, tout ce que nous faisons, tout concerne le Seigneur et tout concourt à sa gloire. Si vous voulez bien lire le premier paragraphe.
Je n'ai cessé de l'enseigner en utilisant des paroles de la Sainte Écriture. Le monde n'est pas mauvais puisqu'il est sorti des mains de Dieu, puisqu'il est sa création, puisque Yahvé l'a contemplé et a vu qu'il était bon. C'est nous, les hommes, qui le rendons laid et mauvais par nos péchés et nos infidélités. N'en doutez pas, mes enfants, toute forme d'évasion hors des honnêtes réalités quotidiennes est pour vous hommes et femmes dans ce monde à l'opposé de la volonté de Dieu.
Première chose hyper importante de nous souvenir, c'est que le regard que Dieu pose sur ce monde est d'abord et avant tout un regard de bonté, un regard de beauté, un regard d'amour, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous a façonnés. Et je vais y revenir aussi dans la deuxième partie, le fait qu'il a créé l'homme à son image, c'est quand même pas rien. Et donc, il nous rappelle que finalement, à chaque fois que nous fuyons ce que nous avons à faire, le devoir d'État, le pape en parle aussi longuement dans sa dernière exhortation, justement sur la sainteté, eh bien finalement, nous faisons autre chose que ce que le Seigneur nous demande, et donc nous contribuons à nous écarter de la volonté de Dieu. Le deuxième paragraphe.
Tout au contraire, vous devez maintenant comprendre avec une clarté nouvelle que Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des tâches civiles, matérielles, séculières de la vie humaine. C'est dans un laboratoire, dans la salle d'opération d'un hôpital, à la caserne, dans une chaire d'université, à l'usine, à l'atelier, au champ, dans le foyer familial et au sein de l'immense panorama du travail. C'est là que Dieu vous attend chaque jour. Sachez-le bien, il y a quelque chose de saint, de divin, qui se cache dans les situations les plus ordinaires, et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de le découvrir.
Voilà cette grande et belle nouvelle que met en lumière Saint José Maria. Et voilà, dans chacune de nos activités quotidiennes, c'est là que le Seigneur nous attend, c'est là qu'il y a, comme il le dit, quelque chose de saint, de divin. Et quand nous nous donnons totalement à ce que nous avons à faire, selon nos devoirs d'État, selon nos états de vie, selon notre âge, eh bien, c'est là finalement que l'on va rencontrer le Seigneur et qu'on va pouvoir eh bien, grandir dans cette lumière des enfants de Dieu.
J'avais l'habitude de dire à ces étudiants et à ces ouvriers qui se joignaient à moi vers les années 30 qu'ils devaient savoir matérialiser la vie spirituelle. Je voulais de la sorte éloigner d'eux la tentation, si fréquente alors comme aujourd'hui, de mener une espèce de double vie. D'un côté, la vie intérieure, la vie de relation avec Dieu. De l'autre, une vie distincte et à part, la vie familiale, professionnelle, sociale, pleine de petites réalités terrestres.
Voilà ici un des résumés très clairs, comme je vous le dis depuis le début, de la doctrine sociale. Nous ne sommes pas des êtres schizophrènes. Comme chrétiens, c'est avec notre cœur, notre intelligence, notre action que nous répondons au Christ. Et donc, voilà, avec ces mots, il le dit, évitons la double vie. C'est-à-dire, voilà, on sait que c'est ce qui a sans doute causé beaucoup de drames dans l'Église et pas que, mais c'est de, voilà, de dire c'est la vie spirituelle d'un côté et puis de l'autre. Ma vie de chaque jour. Mais non, quand des personnes me disent parfois je suis distrait pendant la messe, je pense à telle chose, je dis mais c'est normal d'un certain côté. On n'arrive pas à la messe, on laisse pas ses soucis au port de l'église pour vivre une espèce de pseudo-spiritualité ici, et puis on ressort de l'église en reprenant notre fardeau et en repartant chez nous. Ça n'a aucun sens. On vient justement avec tout notre être à la messe, avec nos inquiétudes, nos souffrances, nos troubles, nos doutes, nos joies, nos peines. Et c'est ça qui fait qu'on les offre au Christ à l'offertoire, qu'on se laisse nourrir par lui dans son Eucharistie et que nous repartons. Alors oui, différents, parce que, voilà, selon ce petit jeu de mots, on ne dit pas que la foi change notre vie, mais il n'y a pas de changement dans notre vie, mais ça change notre vie. C'est-à-dire que voilà, quand on vient à la messe, ça ne nous empêche pas d'avoir une feuille d'impôt. Bon. Mais ça va changer notre manière de le faire parfois, notre manière d'agir. C'est-à-dire que notre vie ne change pas du tout au tout, il n'y a pas de nouveauté. Mais par contre, eh bien, on est transformé parce que le Christ habite en nous. Donc vraiment, la doctrine sociale est là pour nous dire, mettons en cohérence ce que nous croyons et, par notre intelligence et comment nous allons le mettre en œuvre. Vous voulez lire le dernier paragraphe ?
Non, mes enfants. Non, il ne peut y avoir de double vie. Nous ne pouvons être pareils aux schizophrènes si nous voulons être chrétiens. Il n'y a qu'une seule vie, faite de chair et d'esprit, et c'est cette vie-là qui doit être, corps et âme, sainte et pleine de Dieu. Ce Dieu invisible, nous le découvrons dans les choses les plus visibles et les plus matérielles.
Voilà, cet encouragement de ce saint du XXe siècle, eh bien, à vivre cette vie cohérente à la lumière de l'Évangile, chaque jour de nos vies. Et pour approfondir un peu notre réflexion sur, voilà, une fois que nous avons saisi qu'il ne peut pas y avoir de distinction entre ce que le Christ nous enseigne sur l'ordre de la connaissance de Dieu, et il enseigne ses disciples sur la connaissance, sur qu'il est le Fils du Père, et il révèle la Trinité, il révèle le mystère profond de Dieu qui se fait proche, qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté éminemment dans le Christ. Eh bien que ça, c'est une part de l'enseignement de Jésus, mais qu'on ne peut pas le dissocier des changements que cela nécessite pour la vie de la société et pour la vie déjà de nos propres sociétés, qui sont nos âmes et nos familles dans un premier temps. Et donc vraiment de saisir combien on ne peut pas dire, même si je dis, parce qu'en fait on ne peut pas non plus dissocier vie de foi intellectuelle, comprendre le mystère de la foi et notre manière d'agir. C'est un même mystère qui se complète. Et parfois, on va arriver à Dieu en étant d'abord dans l'action, entre guillemets. On serait plus Marthe que Marie. On va être plus dans ce service. Et puis, ça ne va pas nous empêcher d'aller à Dieu, parce que c'est le même mystère. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de... Par contre, comme le disait Jean-Paul II, il peut y avoir un risque de s'en limiter à un relativisme ou un scepticisme. Mais si nous le vivons dans la foi, si nous cherchons au Seigneur avec générosité, si nous mettons, quoi qu'il arrive, la prière au cœur de nos vies, il n'y a pas de risque de vivre cette double vie. Et donc nous sommes stimulés, en ce temps de carême particulièrement, à vraiment chercher le Seigneur là où il est, c'est-à-dire là où nous sommes. Là où nous sommes avec les autres, il est là avec nous maintenant en cet instant, c'est une évidence. Quand nous rentrerons chez nous tout à l'heure pour le repas, pour l'après-midi, il sera là, il demeurera là. Et comment est-ce qu'en sa présence, je vais essayer de conformer ma vie à son évangile? Et comment est-ce que, ben voilà, quand je sais que je m'en éloigne, eh bien je lui demande instantanément pardon, je lui demande sa grâce, voilà, de vivre en sa présence. Alors, pour approfondir cela, méditons comment l'homme a une place particulière dans la création. Je voudrais pour cela que nous partions de cette phrase des exercices spirituels de saint Ignace, qui est le cœur des exercices, c'est-à-dire pour saint Ignace, pour comprendre ce qui va se passer, il faut aller à ce principe et ce fondement qu'il énonce.
La place de l'homme dans le plan divin. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin, et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin. Les exercices spirituels de saint Ignace.
Voilà, ce principe et ce fondement des exercices spirituels, donc de cette grande retraite de 30 jours que propose saint Ignace. D'abord, que dit-il? Il dit « L'homme est créé ». Nous sommes des créatures et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes l'imago Dei, nous sommes cette image de Dieu, et donc, quand nous voulons mieux connaître Dieu, eh bien de regarder sa création, pas simplement l'être humain, ce n'est pas la seule création, mais c'est la citation qui est juste en dessous du Concile Vatican II, en revanche, « L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. » Voilà ce que le Concile rappelle avec beaucoup de fermeté. Il n'y a pas de similitude entre l'être humain et les autres créatures. L'homme, l'être humain, est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être créé? Un être créé, c'est un être qui ne se suffit pas à lui-même. Et donc, de savoir que nous sommes créés, cela nous rappelle que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Nous nous recevons d'un autre. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous, de la part de Dieu, mais cela est vrai aussi dans le monde. C'est-à-dire que quand nous créons quelque chose de rien, par nos mains, c'est pas forcément des créations matérielles, ça peut être des créations immatérielles comme des liens d'amitié, de fraternité. Quand nous créons ces choses-là, nous nous rendons finalement dépendants de l'autre. Si l'autre se retire ce lien qu'on a créé ensemble, ben je me retrouve tout seul. Il n'y a plus ce lien. Et donc, qu'est-ce que cela nous rappelle aussi que nous sommes créés ? C'est que nous sommes faits pour Dieu. Et que puisque nous sommes tous créés à l'image de Dieu, que nous sommes faits pour Dieu, c'est de là que découle la dignité de tout être humain. Et par rapport, par exemple, à la question des migrations, c'est une grande question pour beaucoup de chrétiens. Que devons-nous faire? Comment devons-nous agir? Parce que c'est des questions qui troublent et qui ont à port avec un certain nombre de conséquences. Et il faut bien distinguer deux choses quand on parle de ces choses-là. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre du politique, qui ne nous appartient pas en premier lieu, qui est de l'ordre de bien d'organiser la paix entre les peuples, ça vient directement de la doctrine sociale, le fait de faire en sorte que tout être humain puisse vivre en dignité dans sa culture, dans son lieu. Mais il y a un autre domaine que nous, on ne peut pas mettre entre parenthèses, c'est que le Christ nous invite à avoir pour tout être humain une dignité à respecter. Et donc, nous ne pouvons pas éluder et résoudre cette question en nous disant oui, mais il ferait mieux qu'il y ait la paix chez eux et qu'il reste chez eux. Mais peut-être, et c'est une évidence. Le bien des peuples, un des premiers fruits de la paix sociale, c'est la paix dans les pays. Et déjà, commençons à regarder chez nous avant de demander des conseils aux autres pays. Et donc, il faut bien distinguer ces deux choses-là. L'être humain a une dignité absolue que je ne peux jamais bafouer, que je peux, et cela de, enfin, et est une difficulté, c'est clair. C'est une manière de voir que le Christ nous enseigne. Et donc, il y a, sur ces questions-là, je prends cette question parce qu'elle est centrale et je sais qu'elle interroge beaucoup de chrétiens, y compris moi-même. Mais donc, voilà, il y a ce qui est de l'ordre du politique et il faut œuvrer pour qu'il puisse y avoir des mises en place de situations qui ne nous permettent plus d'avoir à gérer ce genre de situations dramatiques. Et de l'autre côté, nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes tous, pas plus moi qu'un autre, à l'image de Dieu, et cette dignité, eh bien, c'est un droit pour moi qu'elle soit respectée. Parce que si elle est bafouée, c'est le Seigneur qu'on bafoue à travers cette dignité. Alors, cela nous rappelle aussi que l'homme n'est pas le maître de sa vie. Quand on dit que l'homme est créé, c'est que voilà, nous nous recevons de Dieu et qu'il y a cette dignité qui fait que, eh bien, il est nécessaire pour moi d'adopter cette attitude d'humilité. Je me reçois de Dieu, je ne pourrai pas tout faire dans ma vie, sauf si, encore une fois, comme la petite Thérèse, on a découvert que quand on a l'amour, on a toutes les vocations et du coup, on peut tout faire. Je vous en prie. C'était pour donner votre accord. Et donc Dieu confie à l'homme de coopérer à l'achèvement de sa création. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'aurait pas besoin de nous pour donner naissance à des vies. Or, il a voulu que l'homme et la femme soient associés à son œuvre de création, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais il a voulu que nous coopérions. S'il était là, il vous enseignerait bien mieux que moi. Mais il a voulu, eh bien, que des apôtres et puis leurs successeurs, eh bien, participent à sa manière de vivre. Il pourrait bien mieux que nous penser les plaies des pauvres, penser les plaies des malades, enseigner, guérir. Mais il veut nous associer à son œuvre de création. C'est pour cela que, eh bien, ensuite, Saint Ignace dit que nous sommes faits pour louer. C'est le premier verbe qu'il utilise après créer. Nous sommes faits pour louer. Et nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur. La louange, ce n'est pas d'abord forcément de taper des mains, lever les mains au ciel. Même si ça peut être une attitude, et au contraire, elle nous permet de, voilà, avec notre corps, d'intégrer que nous sommes corps et âme, eh bien, de nous tourner vers le Seigneur, de lui rendre grâce pour la vie qu'il nous donne, de sa création. Et alors, ce n'est pas simplement, quand on parle de toutes ces questions, ce n'est pas un socialisme ou un libéralisme qu'il faut viser, mais c'est une anthropologie profonde, c'est-à-dire que notre manière d'être créée, elle nous parle de la bonté de Dieu, de la manière dont il a conçu et créé les êtres que nous sommes. Alors voilà, l'homme est créé pour louer, pour respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par là, sauver son âme. Alors, oui, nous sommes des êtres pécheurs, depuis le péché originel, et Saint Ignace, eh bien, le rappelle très clairement, et donc, puisque nous avons eh bien, ce péché qui nous habite, mais nous le savons, nous sommes sauvés, et c'est tout le sens du carême, c'est de nous repréparer à célébrer dans la joie, avec un cœur renouvelé, ce mystère du salut que Dieu nous a acquis par le sang de son Fils. Et donc, pour répondre à toutes ces questions de la doctrine sociale, de comment est-ce que eh bien, l'être humain a sa place dans le monde, il faut vraiment toujours avoir à l'idée ce fait que nous sommes créés, que nous nous recevons de Dieu, que tout ce que nous créons fait que nous sommes dépendants des autres, dans tous les sens d'ailleurs, quelqu'un qui est à l'origine de la création d'un lien d'amitié, que ce soit lui qui se retire de ce lien ou un autre, et de toute façon il y a coupure, il y a séparation, et donc ben, on se retrouve seul. Or, on n'est pas fait pour ça, puisque l'homme est un être social, puisque dans la Genèse, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être profondément social. Voilà pourquoi aussi dans l'Évangile, Jésus parle de toutes ces questions-là et que l'Église le reprend à son compte à travers la doctrine sociale pour justement organiser ces liens, comment faire en sorte que du mieux possible, on puisse vivre l'Évangile dans les sociétés. Car c'est ça qui est visé au fond, c'est dans la doctrine sociale, c'est que l'Évangile puisse être vécu dans la société et que les sociétés puissent s'organiser pour eh bien, créer un cercle vertueux pour que eh bien, le plus possible puisse s'approcher du Christ, connaître le Christ et vivre selon son évangile. Alors simplement pour terminer cette partie, évidemment on ne peut pas aborder la condition de l'homme sans parler du péché qui fait aussi que là on rentre dans une dépendance de Dieu. Et je propose de lire le numéro 407 du catéchisme.
La doctrine sur le péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, donne un regard de discernement lucide sur la situation de l'homme et de son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs.
Voilà, comme je le disais, cela est lié au lien qui est créé en nous par cette création. Nous nous recevons être créés de Dieu. Et donc, eh bien, ce lien, il est bon, parfois, et même souvent, dans nos relations. Heureusement, nous y travaillons, nous y veillons. Et puis parfois, eh bien, il est rompu. Et donc, le catéchisme nous enseigne que ignorer cela, c'est faire finalement de l'être humain un être tout-puissant qui se satisfait à lui-même, qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui n'a pas besoin de se recevoir des autres, qui n'a pas besoin de vivre ses liens fraternels, puisqu'il n'y a pas cet être social qui l'est pourtant profondément, et que cela entraîne eh bien, des grosses erreurs dans l'éducation, la politique, l'action sociale et les mœurs, parce qu'on va oublier cette pauvreté, cette faiblesse. Alors souvent, elle nous est rappelée de manière assez violente même parfois, que nous sommes petits et pauvres et en même temps capables de grandes et belles choses avec la grâce de Dieu et par notre abandon à sa miséricorde. Alors pour terminer, essayons de donner un peu une définition entre guillemets de la doctrine sociale. Avant de finir par ce texte de Saint Jean-Paul II, deux petites considérations. La doctrine sociale donc considère la société en tant que cadre de vie des hommes. C'est-à-dire que la doctrine sociale, elle va pas parler d'abord des rapports personnels, elle va parler de la société en tant que cadre de vie des hommes. Et elle indique comment agir pour répondre en société à répondre à l'appel de Dieu. Saint Jean-Paul II a aussi beaucoup parlé de ce qu'il a intitulé les structures de péché, c'est-à-dire dans les sociétés, des structures qui sont mises en place et qui, entre guillemets, obligent presque l'être humain à ne pas agir à travers la justice. Un exemple, la mondialisation fait que beaucoup et d'un certain côté, Saint-Paul II les a appelées structures de péché parce qu'elles n'enlèvent pas totalement toute la responsabilité, mais elles l'enlèvent un petit peu. Par exemple, nous allons tous dans peut-être des grandes surfaces pour faire nos courses où nous savons, j'en parlais justement avec des jeunes l'autre jour qui a travaillé à Leclerc et qui, je ne savais plus quel était le pourcentage de gaspillage. Il m'a dit 30%. 30%. Et donc, quand on va dans ce genre de choses, indirectement, c'est pour ça que Jean-Paul II a appelé ça des structures de péché, c'est que on contribue indirectement à faire en sorte qu'il y ait 30% de gaspillage. Alors, on n'a pas à culpabiliser plus que ça, parce que ça nous dépasse. Par contre, de faire attention à tout ce qu'on fait. Ou encore un autre exemple, quand nous achetons des choses qui ne nous coûtent pas cher parce que ça a été fait dans un autre pays, mais que les conditions de travail par des enfants ou des choses comme ça, Jean-Paul II a dit, mais tout ça, indirectement, ça pousse l'homme à s'éloigner de Dieu, ces structures de péché. Et au contraire, la doctrine sociale va inviter dans les sociétés à mettre en place des structures, non pas de péché, mais des structures de vertu. On va pouvoir s'entraider à vivre selon la loi du Christ, à vivre non pas simplement notre foi en théorie, mais en pratique, parce que le Christ dans l'Évangile nous invite à un changement de vie radical et pas simplement à faire un très bel exposé de notre foi, même si c'est essentiel. Et encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc, première chose, vraiment, la doctrine sociale considère la société en tant que le cadre de vie des hommes. Donc, elle ne va pas parler d'abord de rapports de foi personnel, mais comment est-ce que dans la société, on peut s'organiser pour que vraiment le message et le salut apporté par le Christ soit vécu par le plus grand nombre. Et enfin, deuxième chose, la doctrine sociale, finalement, c'est un ensemble de principes qui favorisent, comme je le disais, l'exercice de la vertu. Voilà, la doctrine sociale va faire en sorte que nous puissions être encouragés dans la vertu et non pas dans le vice. Encouragés dans le don, encouragés dans la réception du message du Christ, de sa miséricorde, de tout ce qui nous invite à vivre. Vraiment, la doctrine sociale va se prononcer là-dessus, donc à travers les exemples que je vous ai donnés. Et justement, le fruit de la mise en œuvre de cette doctrine sociale, c'est la paix. La paix est un des premiers fruits de la mise en œuvre de cette doctrine sociale. Et dans des pays où on peut se développer un peu plus cette cohérence de vie entre l'Évangile et les sociétés, la paix sociale apparaît parce que là où est le Christ, là est l'Esprit Saint, là est Dieu le Père, et là est du coup la vérité, la splendeur de la vérité, comme nous le rappelait Saint Jean-Paul II dans l'un des premiers textes que nous avons parcourus. Alors, la prochaine fois, le Père François parlera dimanche prochain de la place de l'autorité politique, justement dans cette doctrine sociale de l'Église. Et puis dans 15 jours, je parlerai de ce qu'on appelle la communication des biens, c'est-à-dire le fait que nous possédons tous des biens, pas forcément, on verra qu'il y a des biens matériels et des biens immatériels, je ne vais pas en dire trop maintenant, et puis la question de la justice sociale. Voilà. Pour terminer et peut-être répondre s'il y a quelques questions, on peut relire le dernier paragraphe de Saint Jean-Paul II dans Centesimus Annus, donc c'était pour les 100 ans de l'encyclique Rerum Novarum qu'on a lu au tout début, qui était la première des encycliques sociales de l'Église du pape Léon XIII.
La doctrine sociale, aujourd'hui surtout, s'occupe de l'homme en tant qu'intégré dans le réseau complexe de relations des sociétés modernes. Les sciences humaines et la philosophie aident à bien saisir que l'homme est situé au centre de la société et à le mettre en mesure de mieux se comprendre lui-même en tant qu'être social. Mais seule la foi lui révèle pleinement sa véritable identité, et elle est précisément le point de départ de la doctrine sociale de l'Église qui, en s'appuyant sur tout ce que lui apportent les sciences et la philosophie, se propose d'assister l'homme sur le chemin du salut.
Voilà, un résumé assez clair et assez concis de ce qu'est la doctrine sociale. C'est vraiment Jean-Paul II qui nous l'offre dans ce paragraphe. Donc vraiment en rappelant que c'est vraiment la foi, cette foi que nous révèle Jésus-Christ en Dieu le Père, qui nous a donné l'Esprit Saint, qui est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver par la puissance de sa résurrection, qui a invité à la conversion, au changement. Eh bien, c'est vraiment cette foi en Jésus-Christ qui révèle vraiment qui est l'être humain et qui permet ensuite de donner des indications sur la manière dont, dans le monde, on peut mettre en œuvre des structures de vertu qui vont nous permettre de vivre et de suivre le Christ. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, bon dimanche.